Vous écoutez, on lit pour vous.
L'auto-autochtonisation. Quand l'ascendance autochtone est détournée. Un texte de Marie-Lou Bernatché, paru le 4 mai 2023 dans l'Express.ca de Toronto. Il y a de plus en plus de personnes blanches qui s'identifient comme autochtones sans avoir de reconnaissance officielle, avance le professeur de sociologie Daryl Leroux de l'Université d'Ottawa. Ce mouvement serait davantage populaire au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur la côte est des États-Unis. L'Ouest canadien n'est pas épargné, dit-il, mais c'est plus rare, entre autres dû à la forte présence des Premières Nations. Daryl Leroux travaille sur les dynamiques du racisme et du colonialisme depuis près de 20 ans. Le 4 avril 2023, à la rotonde de la Cité universitaire francophone, un campus de l'Université de Regina, il a lancé son livre « Ascendance détournée quand les Blancs revendiquent une identité autochtone ». Abordant les enjeux de l'appropriation de l'identité métisse et autochtone, l'universitaire a ainsi décrypté le concept d'auto-autochtonisation. Une ascendance détournée. Selon le chercheur, plus de 10 millions de personnes au Canada ont un ancêtre lointain autochtone. On parle de lignées très lointaines, d'environ 10 générations. Daryl Leroux a retenu trois mécanismes distincts que les personnes blanches utilisent pour retrouver des ancêtres qui seraient autochtones. Le premier mécanisme, le plus utilisé, est celui d'ascendance linéaire, c'est-à-dire lorsque tu cherches les parents de tes parents et de tes grands-parents, etc., dans une lignée généalogique. L'ascendance ambitieuse est la deuxième technique utilisée. Encore une fois, tu remontes dans le passé, mais ce qui est différent et intéressant, c'est que l'ancêtre revendiqué est un ancêtre européen dont l'identité est transformée pour être autochtone. Le dernier mécanisme est celui de l'ascendance latérale. On commence en linéaire, puis on bifurque vers la droite ou la gauche pour, par exemple, affirmer que le petit cousin était marié à la tante de Louis Riel. C'est une technique assez créative. Et si vous pensez que j'exagère, j'ai vu des exemples de revendications assez créatifs. Des données qui ne collent pas. Le professeur explore plusieurs forums de généalogie pour identifier les mécanismes individuels de l'auto-autochtonisation. Ce qu'il est intéressant de constater, c'est que ce sont presque toujours les mêmes femmes qui sont revendiquées, et pour plusieurs identités. Une même personne peut être utilisée pour revendiquer une identité métisse, algonquine, inoue, etc. Les quatre femmes qui ressortent le plus dans les forums de généalogie portent les noms de Marie Sylvestre, Marie Métouamé-Gokoué, Marguerite Pigarouiche ou Femme Nipissing, toutes nées entre 1600 et 1650. J'ai estimé que Marie Sylvestre aurait environ 2 millions de descendants et que ces quatre femmes ensemble en auraient environ 3 à 4 millions. Ce qui veut dire que des millions de personnes pourraient se revendiquer autochtones aujourd'hui au Canada si on suit cette logique avec ces quatre femmes seulement, ponctue le chercheur. Pourquoi s'auto-autochtoniser? C'est étrange, car on ne voit pas de gens qui revendiquent avoir des racines anglaises, donc ça nous parle de la tendance politique du moment, exprime Daryl Leroux. Toujours selon l'auteur du livre « Ascendance détournée » qui deviendra professeur agrégé à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa au mois de mai, il y aurait un mouvement de chasseurs et de pêcheurs qui s'auto-autochtonisent. Il semble y avoir des stratégies politiques pour s'opposer à des recours territoriaux des Premières Nations. entrevoit-il, au vu de ses analyses de procédures judiciaires entamées par des associations dites métisses qui visent des droits de chasse et pêche sur divers territoires. Et cela, même au détriment des autres groupes autochtones déjà présents, ajoute-t-il. Le chercheur rappelle que, peu importe la motivation, lorsqu'une personne change son identité, c'est qu'elle est à la recherche d'un avantage quelconque, monétaire, social ou culturel. Il y a aussi un petit pourcentage de ces gens qui croient honorer ses ancêtres et qui pensent qu'il est en train de faire une bonne chose, regrette le conférencier. Malgré tout, ce mouvement qui prend de l'ampleur ne connaîtrait pas souvent de dénouement positif auprès des instances gouvernementales. Ce n'est pas un mouvement qui fonctionne bien, se félicite Daryl Leroux. Pour le moment, les procédures judiciaires des organismes et individus qui revendiquent une soudaine identité métisse ou autochtone ont toutes échoué. C'était l'auto-autochtonisation quand l'ascendance autochtone est détournée, un texte de Marie-Lou Bernatché paru le 4 mai 2023 dans l'Express.ca de Toronto.
Danger sur le chemin de l'école. Un dossier de Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. Se rendre à l'école à pied ne devrait pas être risqué. Pourtant, des centaines d'enfants ont été victimes d'accidents dans les dernières années, même si les intersections les plus dangereuses à proximité des écoles de la métropole sont connues. Blessés sur le chemin de l'école. Près de 500 enfants ont été blessés par des véhicules au cours des 5 dernières années près des écoles de la province. Certains écoliers doivent emprunter des trajets plus risqués, qui traversent des rues comportant plusieurs voies de circulation ou sans passage piétonnier. La presse a obtenu la liste des intersections les plus dangereuses aux abords des écoles de Montréal, mais aussi des écoles vers lesquelles il est le plus risqué de se rendre. Devant l'école primaire Saint-Joseph à Anjou, des panneaux installés au milieu du boulevard Châteauneuf pour obliger les conducteurs à ralentir ont visiblement été accrochés par des voitures et sont penchés. Ces panneaux ne sont pas tant utiles, dit en soupirant Émilie Boisclair, qui attend son fils de 8 ans à la sortie de l'école. Le monde s'en fout, les gens ne font pas leur arrêt. Les vitesses ne sont jamais vraiment respectées, confirme Magali Vachon-Nadeau, enseignante à l'école. Le matin, les gens sont pressés, ils ne font pas attention et la sécurité des enfants est compromise. Qu'il y ait une brigadière ou non. Cette école primaire a été identifiée par Shabnam Abdoulaye, chercheuse postdoctorale à Polytechnique Montréal, comme l'une de celles autour desquelles il y a le plus d'intersections dangereuses pour les piétons. Pour déterminer les intersections les plus risquées pour les enfants, Shabnam Adolaï a examiné les rues dans un rayon de 800 mètres des écoles, la distance que peut habituellement parcourir à pied un élève du primaire. Puis, d'autres variables ont été examinées, comme les mesures d'apaisement de la circulation, le contrôle de la circulation, par exemple les feux de circulation ou les arrêts, la présence d'une piste cyclable, le nombre de voies à l'intersection et la visibilité. Normalement, dans l'analyse utilisée par les municipalités, on se concentre sur le nombre de collisions. Mais on peut avoir des intersections très dangereuses, où il n'y en a pas eu. C'est si dangereux que les gens ne les utilisent pas pour traverser, dit Mme Abdoulaye, qui est également cofondatrice de l'entreprise Safe Mobility, qui aide les municipalités à déterminer les intersections dangereuses. Le travail qu'elle fait permet de cibler les endroits problématiques avant qu'une collision ne survienne. Quartier défavorisé, risque accru. Les élèves qui vivent dans des arrondissements plus défavorisés marchent davantage pour aller à l'école, et c'est dans ces mêmes quartiers que se trouvent les écoles autour desquelles il y a le plus d'intersections dangereuses, explique Mme Abdoulaye. Plusieurs de ces écoles sont dans l'est de l'île de Montréal, à Anjou, et dans le quartier Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. L'école primaire Léonard de Vinci fait également partie de cette liste. Elle est aussi située tout près du boulevard métropolitain. Bien des automobilistes sont pressés d'accéder à l'autoroute et n'hésitent pas à dépasser la limite de vitesse, fixée à 30 km/h dans certaines zones. Une brigadière qui travaille à proximité de cette école du quartier Saint-Michel confirme qu'elle se fait faire des doigts d'honneur par des automobilistes pressés. En 2024, pas moins de 96 enfants de 5 à 17 ans ont été blessés dans la province dans des secteurs scolaires pendant les heures d'école, rapporte la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ. En 2023, il y en a eu 100. Le président du syndicat des brigadiers de la Ville de Montréal estime que les automobilistes sont vraiment dangereux. Mettons que le brigadier a sa pancarte. Souvent, ils approchent près du brigadier et ils klaxonnent, illustre Marc Babin, qui représente un peu plus de 600 personnes. Ses membres se font parfois « envoyer chier, le doigt dans les airs », déplore-t-il. Sylvie, mère d'un enfant qui fréquente la maternelle à l'école Léonard de Vinci, dénonce le fait que les voitures ne s'arrêtent tout simplement pas au passage pour piétons dans la rue Villeray. N'est-ce pas une rue plutôt tranquille? Pas le matin et le soir, oh non! Il y a beaucoup de va-et-vient, je trouve ça dangereux, observe-t-elle. Ado au cellulaire. Quartier Hunsic, angle du boulevard Henri Bourassa et de l'avenue Péloquin. Il est 15h20. La cloche va bientôt sonner à l'école Saint-Paul-de-la-Croix, située à environ 500 mètres au sud de cette intersection, qui figure au palmarès des plus dangereuses, près d'une école primaire à Montréal. Le boulevard Henri Bourassa sépare deux quartiers résidentiels. Lors de notre passage, seulement 3 élèves de l'école primaire ont franchi l'intersection. En revanche, des dizaines et des dizaines d'adolescents vêtus de l'uniforme de l'école secondaire Sophie Barra l'ont traversé. Tous, à une exception près, les yeux vissés sur leur cellulaire. Un grand nombre n'ont même pas levé les yeux de l'écran de leur téléphone une seule fois. Pourtant, pour passer du sud au nord, il faut traverser 3 voies, un terre-plein, puis 2 autres voies. Il n'y a ni traverse piétonne, ni feu de circulation, ni panneau d'arrêt. Il y a une voie réservée aux autobus, mais elle est barrée pour des travaux de construction. C'est l'heure de pointe et de nombreux véhicules effectuent des demi-tours d'est en ouest. On voit 2 pics de collision dans l'âge des enfants, explique Marie-Soleil Cloutier, professeure titulaire à l'Institut national de la recherche scientifique, INRS, et directrice du laboratoire piéton et espace urbain. Le premier survient entre 5 et 7 ans. Là, souvent, ils n'ont pas toute la maturité cognitive pour prendre de bonnes décisions. Juger du trafic qui s'en vient, de la vitesse des voitures, explique la géographe spécialisée en sécurité routière. Le deuxième s'observe entre 11 et 13 ans, lors de la période de transition vers le secondaire. « On leur donne plus de lousse, » dit Mme Cloutier. « Ils vont à l'école secondaire par eux-mêmes en marchant ou marchent pour aller à l'autobus ou au métro. Et là, c'est l'expérience qui leur manque. » Ces 2 pics statistiques ont aussi été observés en Europe et aux États-Unis. La docteure Liane Franzblow, coordonnatrice en traumatologie à l'hôpital de Montréal pour enfants, confirme que son établissement voit beaucoup d'élèves du secondaire qui ont été happés par des véhicules. La majorité des blessures ne sont pas graves, mais on en a des graves qui se retrouvent aux soins intensifs. Ça dépend de la vitesse de la voiture. On peut avoir des traumatismes crâniens, des grandes fractures, relate la docteure Franzblow. Des brigadiers pour les écoles secondaires? Charlie Shine, 15 ans, a été happé à l'automne 2024 à l'intersection de l'avenue Westminster et du chemin Elsley, à Montréal-Ouest. Le matin de l'accident, il marchait vers son école secondaire, Royal West, avec 2 amis. Avec sa mère, médecin intensiviste pédiatrique à l'hôpital de Montréal pour enfants, il milite pour la mise en place de brigadiers scolaires aux intersections dangereuses, près des écoles secondaires. D'entrée de jeu, Charlie explique avoir emprunté le corridor identifié comme étant sûr par l'école. Lorsqu'il a été happé, il était sur une traverse piétonne. Il n'avait pas son téléphone et n'écoutait pas de musique. « J'ai traversé l'intersection », explique-t-il. « J'ai regardé avant pour les autos et elles étaient toutes arrêtées. » J'ai commencé à marcher et quand j'étais rendu à la moitié de l'intersection, j'ai tourné ma tête et j'ai vu qu'il y avait une voiture qui fonçait sur moi. Le conducteur aurait été aveuglé par le soleil. Par chance, Charlie s'en est tiré avec des ecchymoses. Il croit que la présence d'un brigadier aurait pu changer la donne. À la suite de l'accident, sa mère, la docteure Samara Zavalkov, a tenté de faire des démarches pour la mise en place d'un brigadier scolaire à cette intersection. Il nous a été dit par le SPVM qu'on n'avait pas le droit de donner un brigadier à une école secondaire, déplore-t-elle. La médecin, qui travaille aux soins intensifs, est souvent témoin de la gravité des blessures causées par les collisions et croit que l'accident de son fils devrait servir de signal d'alarme. La prochaine collision pourrait être fatale. L'idée de dire aux adolescents « fais plus attention », ce n'est pas une solution. La solution doit être dans le système, dans la structure, insiste-t-elle. Vous écoutez « Danger sur le chemin de l'école ». Un dossier de Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse. C'est une question de vie ou de mort. À Montréal, la majorité des collisions graves ou mortelles impliquant un enfant surviennent aux intersections. Pourtant, des milliers d'automobilistes enfreignent chaque année un règlement qui vise à assurer la visibilité des petits piétons, l'interdiction de se stationner à moins de 5 mètres d'un coin de rue. Les agents de stationnement en font désormais une priorité et le nombre de constats pour cette infraction est en constante augmentation depuis 5 ans. 10h15, intersection Cartier et Doyon. Max, agent de stationnement, vient à peine de commencer son quart de travail dans l'est de l'arrondissement de Ville-Marie. Une Subaru noire est garée à moins d'un mètre de l'arrondi du coin. Une peluche mauve traîne sur le tableau de bord. Le Code de sécurité routière du Québec interdit le stationnement à moins de 5 mètres des intersections, notamment dans le but d'assurer la visibilité des piétons qui s'y engagent. Puisqu'ils sont plus petits que les véhicules, les enfants du primaire ont particulièrement besoin que cette règle soit respectée. À Montréal, les automobilistes sont très nombreux à l'enfreindre. En 2024, 28 156 constats ont été remis à ce sujet par l'Agence de mobilité durable de Montréal. Un sommet. C'est un bond énorme comparativement aux 8 426 constats délivrés à la création de l'agence en 2020. Max prend des photos du véhicule. Elles seront versées en preuve au dossier. L'homme de 57 ans imprime ensuite une contravention à l'aide d'un appareil portatif et la fixe sous l'essuie-glace. 186 $. C'est la première de plusieurs qu'il rédigera pour cette infraction durant les 2 heures où la presse l'a suivi. Favoriser la visibilité. La règle des 5 mètres est souvent méconnue. On a augmenté nos interventions pour libérer au maximum les intersections, explique le directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal, Laurent Chevreau, au sujet de la hausse des constats. C'est un enjeu extrêmement stratégique pour la sécurité, dit-il. C'est ce qui fait en sorte qu'un piéton qui va traverser va être vu ou ne va pas être vu par un automobiliste. Donc, c'est une question de vie ou de mort, carrément. Dans la métropole, 67 % des 49 collisions graves ou mortelles impliquant des enfants à pied ou à vélo, 0 à 17 ans, survenues entre 2018 et 2022, ont lieu à une intersection, rapporte le plan d'action 2025-2027, Vision zéro décès et blessés graves de la Ville de Montréal. Intuitivement, dit M. Chevreau, je pense que ça doit être très rare que quelqu'un tourne lorsqu'il y a quelqu'un qui est en train de traverser, s'il peut le voir. Donc, la plupart du temps, c'est qu'il ne le voit pas. S'il ne le voit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque la visibilité. Se stationner, un calvaire. Max, qui nous a demandé de taire son nom de famille pour des raisons de confidentialité, se déplace d'un seul coin de rue. À l'angle Cartier et Logan, deux voitures sont garées à l'intérieur des 5 mètres interdits, à l'ombre de la fameuse pancarte blanche montrant le pictogramme d'un enfant qui traverse la rue en courant après un ballon. Le premier véhicule se trouve à peine à quelques centimètres des lignes blanches de la traverse piétonne. Deuxième contravention. De l'autre côté de la rue, la voiture est stationnée à environ 3 mètres du coin, évalue Max en comptant ses pas au sol. Indulgent, il ne donne pas de constat. Durant notre tournée, il en distribuera uniquement aux cas les plus flagrants. Sinon, on ferait juste ça, résume-t-il. Nous reprenons la route. Peu de temps après, Max repère une voiture immobilisée à une intersection. Il fait clignoter son voyant lumineux pour prévenir le conducteur qu'il est garé dans une zone interdite. À l'intérieur, le conducteur, Robert Breton de la Rive-Sud, explique qu'il attend son frère qui l'a accompagné à un rendez-vous médical en compagnie de sa belle-sœur, Lynn Surenne. « Il n'en a plus de stationnement à Montréal », déplore M. Breton. « C'est un problème pour le citoyen transitoire. »« C'est un calvaire », ajoute Mme Surenne. « Je ne peux même pas te dire c'est quand la dernière fois que je suis venue à Montréal pour voir Montréal », dit Lynn Surenne. Dans ce cas, les 5 mètres d'intersection servent en quelque sorte de débarcadère. S'il y a un towing qui arrive, un camion de pompiers, un policier, on est capable de partir. Ça, je le sais, je suis capable d'être conscient que je ne suis pas à ma place. La question, c'est pourquoi je suis obligée de faire ça? Parce qu'il n'y a rien de disponible, explique M. Breton. Il s'en tire avec un avertissement. Quand la tragédie apporte le changement. 10h56. Nous sommes rendus à l'intersection des rues de Rouen et d'Orion. Un VUS noir est immobilisé sur la traverse piétonne. En biais, une voiture compacte est très proche de l'autre passage marqué par des lignes jaunes. Deux contraventions sont remises. Il y a 3 écoles primaires dans la zone où patrouille Max. Légèrement au nord de son secteur se trouve l'école Jean-Baptiste Meyer. C'est l'établissement que fréquentait la petite Maria Lejankivska, une réfugiée ukrainienne de 7 ans, lorsqu'elle s'est fait happer mortellement en décembre 2022 sur le chemin de l'école. À notre suggestion, Max s'y rend. Visiblement, la tragédie a transformé les abords de l'école. Plusieurs zones où il est interdit de stationner sont hachurées en jaune au sol. « C'est la première fois que je vois cela », dit l'agent de stationnement au sujet du marquage. « Ça serait l'idéal d'avoir ça dans toutes les zones scolaires et autour des hôpitaux. » Malgré cela, une motocyclette s'est stationnée dans un endroit interdit. Contravention. Dans l'heure suivante, nous intercepterons un homme qui dort dans sa voiture, garée à l'intérieur des 5 mètres, une Tesla stationnée à côté d'un panneau, arrêt interdit, et même une voiture avec un canot sur un toit qui bloque une traverse piétonne. Un obstacle pour les petits, et même les grands. Afin de sensibiliser les automobilistes, l'Agence de mobilité durable de Montréal a aussi mené une campagne dans les quartiers Villeray et Rosemont. Le message « Ne stationnez pas ici, nous voulons être visibles » a été peint au sol dans des zones de 5 mètres aux intersections. Souvent, les citoyens ne comprennent pas les objectifs des règlements, observe Laurent Chevreau. S'il y a des réglementations, c'est pour une raison, dit-il, et très souvent, c'est pour la sécurité. C'était « Danger sur le chemin de l'école », un dossier de Marie-Ève Maurras, Daphné Cameron et Chloé Bourquin, paru le 23 septembre 2025 dans la presse.
Le Québec donne du bonheur à Washington. Un texte de Mario Girard, paru le 27 août 2025 dans la presse. Face à la morosité qui règne actuellement dans la ville de Washington, l'organisme Downtown DC, sorte de SDC du centre-ville de la capitale, multiplie les initiatives pour offrir à ses citoyens des occasions de sourire et d'oublier la lourdeur ambiante. L'un des moyens trouvés consiste à disposer des installations interactives amusantes dans des places publiques. C'est là qu'entre en scène l'entreprise montréalaise Créos qui, à travers les œuvres participatives E-Motion et Horizon, a pour mission d'offrir un peu de bonheur aux Washingtoniens, maintenant obligés de vivre au quotidien avec la présence de militaires de la Garde nationale. Avouez que c'est plutôt ironique. Le président américain Donald Trump mène contre nous une guerre aussi imprévisible que déloyale, et c'est vers nous que ses citoyens consternés et découragés se tournent pour puiser des sources de joie et de quiétude. Ce n'est pas la première fois que Créos fait affaire avec des dirigeants de l'organisme Downtown DC. Des projets d'installation interactive ont eu lieu dans le passé. Un nouveau projet était sur les rails et devait être réalisé au cours des prochains mois. Mais la situation actuelle dans la capitale américaine a précipité les choses. Comme vous le savez, il y a un contexte assez particulier à Washington en ce moment, m'a confié Alexandre Lemieux, cofondateur et directeur du développement des affaires chez Créos. Dans les dernières semaines, ça s'est accéléré. La direction de Downtown DC a donc décidé de changer son calendrier et d'offrir, plutôt que prévu, les deux œuvres aux visiteurs du parc Franklin, situé à 10 minutes de marche de la Maison-Blanche. C'est clair qu'ils veulent avoir quelque chose de positif à offrir aux touristes et aux résidents, ajoute Alexandre Lemieux. Résultat, une équipe s'affaire présentement à installer les diverses composantes des deux œuvres interactives qui seront accessibles au public à compter de samedi et pendant un mois. L'objectif est de susciter la curiosité, de créer un sentiment de rassemblement, de permettre aux gens de vivre une expérience qui, peu importe le climat, va leur faire apprécier la ville, rappelle Alexandre Lemieux. Faut-il rappeler que Donald Trump a déployé plus de 2 200 militaires de la Garde nationale dans les rues de Washington afin d'y faire régner l'ordre et la sécurité? Ces soldats, dont certains portent des armes, sont très visibles. C'est le but poursuivi par le président. Même si, selon des données récentes de la police de Washington, les crimes violents ont diminué de 26 % et les vols de 28 % dans la capitale américaine par rapport à la même période en 2025, le président américain tient par-dessus tout à cette présence militaire qui est perçue comme une provocation par plusieurs citoyens. Certains ont même installé des campements en guise de protestation. Loin de se laisser intimider, Donald Trump parle maintenant d'étendre cette expérience dans d'autres villes comme Baltimore et Chicago. On comprend mieux les initiatives de Downtown DC qui demandent à leur public de venir en renfort. Vous avez peut-être vu des œuvres de Creos à Montréal ou ailleurs. L'entreprise montréalaise a présenté 500 projets dans 120 villes réparties dans une quinzaine de pays. Chez nous, certaines œuvres ont été présentées dans le quartier des spectacles et lors de l'événement Luminothérapie. Créé par Olivier Landreville, en collaboration avec Serge Maheu, l'œuvre Emotion est inspirée des balançoires à bascule de notre enfance. Un liquide incandescent répond aux mouvements générés par les utilisateurs. Une ambiance sonore qui rappelle les bruits de la mer habille le tout. Quant à Horizon, il s'agit de cocons géants qui, lorsqu'on lève les yeux, permettent de découvrir des voûtes étoilées, une envolée d'oiseaux ou une canopée. Les 5 unités sont équipées d'un fauteuil berçant qui favorise la rêverie. Les 2 œuvres ont remporté en avril 2025 le prix Gold au NY Architecture Design Awards dans la catégorie Urbanisme et planification, Arts publics et initiatives culturelles. Le concours a reçu près de 2000 soumissions. Creos se spécialise dans la distribution de projets interactifs conçus d'abord à Montréal. Ces œuvres sont créées par une société sœur, INIT, qui travaille avec plusieurs créateurs. À la fin du mois de septembre 2025, Washington sera l'hôte de l'International Downtown Association Conference. Des délégués de plusieurs centres-villes de partout dans le monde se rassembleront pour discuter de leurs enjeux. On parlera de bonheur, des choses que l'on peut faire pour le créer dans les rues, les parcs ou les places publiques. Une rencontre est prévue dans le parc Franklin. Voilà une vitrine inespérée pour Creos et pour l'art qui rend heureux. Il est à souhaiter qu'au cours des prochaines semaines, le cortège de limousines présidentielles passe devant ses œuvres. Il est à souhaiter que Donald Trump, qui s'y trouvera, se demande pourquoi des citoyens ont le sourire fendu jusqu'aux oreilles dans les balançoires d'E-Motion ou les coquilles géantes d'Horizon. Il est à souhaiter qu'on lui dise qu'il s'agit d'inventions de ses voisins du Nord. Car c'est aussi de cette façon que « Those mean and nasty Canadians » répondent aux insultes et aux attaques. C'était « Le Québec donne du bonheur à Washington », un texte de Mario Girard, paru le 27 août 2025 dans La Presse.